Mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Frenkel, bonjour. Bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois Marc Van Maël. Bonjour Marc.
Bonjour Irène.
Est-ce que j'ai bien prononcé ?
C'était parfait.
Oui, c'était parfait. Alors, tout de suite, pour les gens qui ne vous connaissent pas, Marc, vous êtes le directeur à Toulouse du cinéma L'ABC. Vous êtes né le 25 mars 1965. Vous êtes né le 25 mars 1965 à Saint-Quentin dans l'Aisne, en Picardie. Vous indiquez que vous êtes picard de naissance, mais nordiste de cœur, parce que vous avez vécu dans pas mal de villes du Nord, d'ailleurs, le Cambrai, Valenciennes, Lille, Dunkerque. Vous êtes fils d'agriculteur. Vous découvrez le cinéma à l'âge de 17 ans, dans un cinéma d'art et d'essai de Cambrai. Vous faites vos études. Vous indiquez que vous faites des études moyennes, mais on reviendra dessus. Vous allez nous expliquer tout ça. Pour rentrer dans la vie active et dans une banque. On a ce point commun, d'ailleurs. C'est qu'à partir de l'âge de 35 ans que vous décidez d'aller vers ce que vous aimez, le cinéma. Alors, Marc, on va reprendre depuis le début.
Très bien.
1965, Saint-Quentin. Vous êtes dans une famille d'agriculteurs. Comment se passe cette petite enfance ?
Enfance assez heureuse et paisible. A posteriori, c'est toujours marrant de se dire ben, j'ai grandi à la campagne. Et il y a beaucoup de choses encore aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'ils me choquent à Toulouse, mais le fait de s'ennuyer. Enfin, je vois, ma fille, tous les enfants, j'ai l'impression aujourd'hui, sont un peu dans une quête d'activité permanente. Et nous, on s'ennuyait énormément. Mais c'était aussi le moment des découvertes à la campagne, de faire du vélo, de lire beaucoup, de s'ennuyer, de voir des amis, des copains. Et donc, c'était une enfance plutôt insouciante, heureuse, qui était totalement déconnectée du reste de la vie. J'étais la famille et les copains et l'école, mais voilà, ça ne me perturbait pas. Donc, c'était assez heureux.
Donc, cette enfance en Picardie, ça va être jusqu'à ce que vous quittiez vos parents ?
Oui, exactement.
Eux n'ont jamais déménagé. Ils sont toujours restés en Picardie.
Toujours. Oui, ils n'ont pas bougé. Ça a été quand même le premier choc, c'est de me retrouver interne au collège en 6e. Et là, je ne l'ai pas super bien vécu dans un premier temps, parce que voilà, c'était une rupture un peu brusque.
Et puis, vous étiez tout jeune.
J'étais tout jeune. C'était chez des curés. Ce n'était pas forcément mon truc. Et voilà, donc ça n'a pas été facile. En plus, c'était une école que de garçons. Donc voilà, c'était pas hyper épanouissant. Enfin, après, comme je suis plutôt docile, je l'ai vécu jusqu'à ma terminale. Et après, enfin, j'ai pu partir à Lille, où là, c'était la vie estudiantine avec tout ce qu'elle a de bien et de bien.
Surtout à Lille.
Ouais, c'était assez
surtout
merveilleux.
Lille, qui est une ville magnifique. Vous avez donc été interne chez les curés de la 6e à la terminale.
Ouais, c'est ça, oui.
Vous rentrez tous les week-ends ?
Oui, quand même. Oui, je rentrais tous les week-ends. Après,
donc, deux vies différentes.
Oui, c'est ça. Après, la vie de la campagne, ça fait le pecno qui dit ça, mais c'est quand même une vie différente. Pour le coup, on n'est pas soumis au consumérisme à tout craint, etc. Donc, c'était une vie libre, mais qui était très paisible. J'étais vraiment, je jouais au foot au club du village, j'avais des copains, etc. Donc, c'était assez tranquillou. Et puis, je pense qu'à côté de ça, pour moi, c'était... J'en parle parce que c'est important pour moi. Avant même le cinéma, ça a été la découverte de la musique. Déjà au collège, j'avais un petit poste radio que je cachais discrètement. Et puis la découverte du rock'n'roll et tout ça. Et là, c'était un gros choc. Avant même le cinéma.
Donc, ça a été même la musique. Donc, de la 6e à la terminale, vous êtes qu'avec des garçons.
De la 6e à la 3e.
À la 3e.
Après les hormones de travail.
Vous êtes passé sur du mixte après en seconde.
Exactement.
Ouais. Mais c'est... au collège que vous avez votre petit poste radio, que vous découvrez le rock, avant les filles.
Bien avant les filles, oui. J'étais fan de Supertramp avant d'être fan des filles. Non, c'était la musique, le rock. Enfin, je pense que c'était assez banal comme parcours, mais j'adorais le foot. J'avais un poster de Saint-Étienne dans ma chambre.
Vous pratiquiez ?
Je pratiquais aussi, ouais, beaucoup. Et ben, c'est aussi ça, collège de garçons, au récré, qu'est-ce qu'on fait ? On joue au foot, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Je lisais beaucoup aux études le soir, énormément.
Qu'est-ce que vous lisiez ?
Je crois que je me souviens, en 3e, j'avais été meilleur lecteur du collège. Et lisais tout ce qui me tombait sous la main de la bibliothèque du collège. Donc j'ai quand même beaucoup lu tous les classiques, les Jules Verne, je les ai tous mangés.
Ça vous faisait rêver ?
Ah, je suis un fondu de Jules Verne, enfin, même si c'est parfois un peu gonflant par l'étirement des situations. Mais encore aujourd'hui, j'avais une fille de 6 ans, je lui raconte Voyage au centre de la Terre et 2 ans de vacances et voilà, et le Nautilus et tout ça. Et je trouve que c'est quand même un imaginaire assez foisonnant. En plus, c'était les gravures, je ne sais plus de qui, dans les Jules Verne.
Oui,
et c'est merveilleux. Enfin, c'est le modernisme dans ce qu'il avait de beau à l'époque. Il faisait rêver, on allait pouvoir aller sur la Lune, l'homme serait meilleur et... Donc non, j'ai adoré Jules Verne, mais aussi tous les Agatha Christie, enfin, tout ce que j'ai pu lire, je les ai lus. Quoi. Ça...
Ce goût de la lecture que vous avez développé au collège, vous l'avez gardé tout au cours de votre vie ?
Ben, je me suis marié à une libraire.
Ah voilà, non. J'ai ma réponse.
C'est pas le hasard, on s'est rencontrés.
Non, non, il n'y a jamais de hasard.
Dans sa librairie. Oui, je l'ai gardé, même si aujourd'hui je suis un peu fainéant parfois. Mais oui, j'adore énormément la lecture, le livre, la lecture.
Qu'est-ce que vous lisez maintenant, adulte ?
Alors, je lis beaucoup, beaucoup, je l'avoue, de littérature jeunesse, adolescente. Oui. Parce que je trouve qu'il y a parfois une recherche formelle et même sur le fond d'oser... des chemins un peu de traverse. Moi, déjà, c'est pas une... Enfin, j'ai un ami qui lit 2 heures de philo chaque matin, 1 heure de philo chaque matin. Moi, j'y arrive pas. Lire 3 fois la même phrase pour la comprendre, c'est au-dessus de mes forces. Mais la littérature adolescente, je trouve, elle peut être à la fois extrêmement intelligente et poétique et politique. Et j'ai lu, il n'y a pas si longtemps, un livre qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien ». Histoire d'un gamin aux États-Unis qui n'a pas grand-chose pour réussir. Et puis, il va avoir la chance de tomber sur les bonnes personnes. Et ça, moi, c'est un des thèmes que j'affectionne particulièrement. Peut-être pas celui de la résilience, mais le fait de dire la vie n'est pas facile. Mais si on a la chance de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir une passion qui nous anime un peu et de boire des bières entre deux, je pense que déjà, ça commence à devenir quelque chose de pas mal, quoi.
C'est-à-dire de faire les belles rencontres.
Ouais,
au moment où on est prêt à les faire.
Vraiment, vraiment. Et par rapport à tout ça, ce côté... je parlais de la musique, je parlerais du cinéma, je parle de la littérature. Je pense qu'avant même, d'ailleurs, le cinéma, moi, c'est vraiment la question de la transmission qui m'intéresse. C'est assez basiquement de dire, tiens, je suis en train de lire un livre, j'ai un choc esthétique, émotionnel, tout ce qu'on veut, et j'ai envie d'en parler à mes copains pour qu'ils le lisent eux-mêmes et qu'ils soient remplis de cette joie-là. Et je pense que c'est pareil avec la musique, c'est pareil avec le cinéma, ça passe par là, c'est de dire comment soi-même on éprouve quelque chose et on a envie de le partager. Quoi. Ça se résume assez à ça.
Alors on va revenir à vos années de petit garçon. Vous ne m'avez pas précisé, vous êtes fils unique ?
Non, on est 4.
Vous êtes 4 ?
J'ai 2 frères et une sœur. L'aîné a repris l'exploitation et puis voilà.
Et l'aîné a repris l'exploitation, c'était quelque chose qui était signé d'avance, j'ai envie de dire.
Totalement, non. Si, totalement.
Ah, ouais. Complètement.
Oui, c'est le schéma un peu, je ne sais pas comment on peut dire, enfin le
classique,
fils.
Classique, le fils aîné reprend l'exploitation.
Le fils aîné reprend. Et
vous n'avez pas eu envie vous-même de la reprendre ?
Je pense que, alors moi, pas du tout, mais alors pas un millième de seconde, mais je pense aussi que inconsciemment, mes parents ont fait de telle sorte que je n'ai pas envie, quoi.
Vous êtes le numéro combien sur 4 ?
Le 4.
Vous êtes le petit dernier.
Et voilà, moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Puis, je pense aussi...
Vous avez aidé enfant à la ferme ?
Oui, bien sûr, mais que les tâches un peu ingrates, quoi. Ben voilà, démarrer, enfin, les betteraves, le silo à grains où on se mange de la poussière de grains, ce n'est pas forcément des choses qui incitent à avoir envie d'eux, quoi.
Oui.
Non, puis même on avait des animaux de ça, mais c'est pas mon truc non plus. Quoi.
Oui, donc c'est pas du tout un regret.
Absolument pas, alors là, non, vraiment pas, vraiment pas.
Vraiment pas.
Non.
Donc, vous faites vos années de collège, de lycée, qu'est-ce que vous passez comme bac ?
D'abord un bac C, et puis que j'échoue...
Donc scientifique.
Voilà, mais que j'échoue assez brillamment, c'est-à-dire voilà... Très mauvais en maths, très mauvais en physique, très mauvais en sciences nat. Et malgré tout, je vais à l'oral parce que les autres matières sont très bonnes. Quoi. Et du coup, je repique en B, qui était à l'époque sciences éco. Et là, bah, ça va, je l'ai avec mention. Et voilà.
Et alors, vous partez donc faire vos études supérieures à Lille.
À Lille.
Quelle fac ?
Une école d'économie et de gestion.
Oui.
Je me fais virer en fin de 3e année.
Ah.
Parce que je pense que j'ai vu davantage de films que de cours.
Oui. Déjà,
Non, je pense, je me souviens vraiment, il y a un prof en droit notamment, ce qui était le vendredi après-midi. Et comme j'ai loupé l'épreuve, j'ai dû passer l'oral et je ne savais même pas à quoi ressemblait le prof, quoi. J'avais aucune idée de sa tête. Je crois que je n'étais jamais allé à un cours. Et donc voilà, non, je séchais. Puis je pense que comme j'ai fait une crise d'adolescence un peu à retard. Et bon.
C'était pour vous la découverte un petit peu de la ville et puis du monde, parce que si vous aviez eu autant d'années d'internat et puis après juste un 3 ans de...
C'était exactement ça, on découvre la vie et dès lors...
Les filles.
Les filles, les études deviennent très secondaires.
Très secondaires. Ouais. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire à l'époque comme métier? Vous aviez une idée déjà?
Non, j'étais dans une école d'économie et gestion, donc je suivais le cursus sans aucune envie. Non, j'avais pas d'envie. Petit, mais vraiment petit, quand je disais que je voulais être libraire, quoi, c'était clair pour moi. Et puis après, je voulais être prof d'histoire. Si, prof d'histoire, on m'a dit qu'il n'y avait pas de débouché, mais j'ai souvent un peu suivi le courant. Hein.
D'accord.
Ouais.
D'accord. Vous êtes donc étudiant à Lille, vous avez une petite chambre, j'imagine, d'étudiant. Ouais. Donc c'est un peu la fête tous les jours?
En fin de semaine.
En fin de semaine?
Non, la fête, non, mais enfin, j'ai rencontré un très très beau groupe d'amis avec qui je suis toujours, il y en a deux qui sont à Toulouse d'ailleurs.
Avec qui vous êtes toujours resté en contact?
Je suis toujours resté en contact, avec qui j'ai joué au foot par la suite, avec qui...
Donc l'amitié, c'est important pour vous?
C'est fondamental, oui. Bah, je pense aussi que c'est être le dernier d'une famille avec pas mal d'écart, donc on se construit aussi avec les amis, quoi. On n'a pas de frères et sœurs proches,
oui.
On va trouver. Et puis là aussi, sur la question de la transmission, c'est comment on va glaner à droite, à gauche, des chocs émotionnels à tout niveau. Ouais, l'amitié, c'est capital, quoi, bien sûr.
Alors comment ça se passe quand vous êtes fichu à la porte en troisième année? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Il se passe que c'est pas une super expérience, hein, parce que je pense aussi que c'est la déception vis-à-vis de ses parents, hein, très très clairement.
Bien sûr.
Et puis je reprends des études de droit parce que j'obtiens une équivalence. Je pars à l'armée parce qu'il faut faire l'armée. Je suis pas suffisamment...
Où est-ce que vous faites l'armée?
Je fais l'armée à Laon, dans l'Aisne.
D'accord.
Un gros soupir, enfin, c'est ces zones de rien quoi, qui n'existent pas. Il n'y a que des champs.
Ça n'a pas été la meilleure année de votre vie?
Non, mais en même temps, c'est extrêmement instructif, quoi. On voit comment le schéma social se reproduit à l'armée.
Oui, bien sûr.
C'est...
De toute façon, dès qu'un groupe se forme, c'est le schéma social.
Voilà, qui se reproduit. Donc, c'était pas inintéressant, mais je me suis ennuyé fermement, comprenant absolument pas ce que je faisais là. Je l'ai pas mal vécu parce que je ne suis pas un rebelle. Donc, j'attendais que ça glisse, et puis ça glissait, et puis voilà. Mais, donc, j'étais à l'armée, et puis, sortant de l'armée, j'avais pas de boulot, et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, je suis rentré dans la banque.
Mais à ce moment-là, après l'armée, vous êtes retourné chez vos parents?
Alors, 2-3 mois, parce que je sortais de l'armée, histoire d'avoir un job à la banque à Saint-Quentin, et d'en avoir un vrai après dans le Nord. Et là, je suis parti. Je quittais vraiment définitivement.
Donc, c'est pour la banque que vous quittez la Picardie?
Ouais,
pour
grand plaisir.
Et puis, alors, vous connaissiez déjà, évidemment, de par vos études. Et alors, vous arrivez où quand vous débarquez dans le Nord?
À Lille.
À Lille.
Très clairement à Lille.
Donc, heureux de retrouver ville.
De retrouver la
des
ville.
Des premières découvertes, en fait.
De retrouver des amis. Non, je dis à Lille, en plus, c'est une erreur. Non, je suis d'abord à Valenciennes, mais bon, je faisais souvent la route pour repartir sur Lille. Non, à côté de Valenciennes.
Donc, un inconditionnel du Nord?
Ah, totalement amoureux des Flandres, notamment, et du Nord.
Et des gens du Nord?
Ah, énormément. Mais là... j'ai l'impression d'en être, donc je sais que je suis d'une subjectivité totale, quoi. Mais j'aime bien ce côté, même quasiment cette image d'Épinal. Hein. Enfin, tout à l'heure, je parlais de Saint-Étienne du club de foot, mais moi, le club que j'ai supporté, c'était Lens, le Racing Club de Lens. Il y a un côté un peu prolo que j'aime bien. Enfin, je vous dis, on frise la caricature, voire on y est totalement. Style, on n'est pas forcément des malins, mais on est plutôt sympa et on essaye que les gens se sentent bien, quoi.
Voilà, les gens du Nord ont pour réputation de ne pas ouvrir leurs bras facilement, mais une fois qu'ils les ont ouverts, ils les ouvrent pour de vrai.
Oui, j'espère que c'est ça. Ouais. Puis pas... Voilà, ouais, je sais que j'adore une ville comme Marseille parce qu'elle brasse.
Oui, c'est une mentalité complètement
beaucoup,
à
mais
l'opposé.
C'est...
Là,
voilà,
coup,
j'ai du mal parfois avec ce côté grande gueule. Quoi.
Donc, la banque.
La banque.
Exploitant.
La banque, je m'occupe.
Oui.
Enfin, en gros, j'étais à la fin, j'ai terminé directeur adjoint de l'agence du Crédit Agricole de Berg, là où il est bienvenu chez les Ch'tis.
Oui.
Je m'occupais beaucoup des agriculteurs.
Oui.
Parce que voilà, ça, j'étais un peu préconditionné pour ça. Et puis non, bah là aussi de très belles expériences, parce qu'on parlait de rencontres tout à l'heure. J'ai eu un directeur, mais de folie, qui était un fou absolu de Jacques Brel, qui était de l'ancienne école, qui, je pensais, faisait passer l'humain bien avant tout le reste, et avec lequel on a vécu des trucs de dingue, quoi. Il a créé un son et lumière à Berg, auquel il a fait un peu participer toute l'équipe. Il était à la fois, c'était un bosseur, et en même temps, il prenait tout avec dérision.
Donc un début de vie heureuse.
Oui. Puis heureux de travailler, comme je pense beaucoup, après des études moyennes. Et puis, dans la banque, j'ai appris plein de choses. Enfin, déjà, l'équipe, les clients, moi, je trouvais ça... bien, sauf qu'un jour j'en ai eu marre et je me voyais me dessécher sur pied, mais voilà, je crache pas dans la soupe, quoi.
Je vous propose tout de suite, Marc, une première pause musicale. Et alors, votre choix s'est porté sur Baby de Pulp.
Babies de Pulp.
Ah, avec l'accent.
La Britpop.
On écoute. Hein.
Thank you.
Bon, j'ai bien compris, Marc, que vous n'aimiez pas mon accent anglais.
Bah, je pense qu'il peut être amélioré.
Pourquoi ce choix ?
Ah, j'adore la pop. Mais alors, vraiment, j'adore la pop. En l'occurrence, Pulp, c'est à la fois de la musique, bon, on l'a entendu, hein, très dansante, très, très vive, etc. Et il y a un discours social en sous-main que je ne comprends absolument pas. J'ai juste lu des trucs. Mais alors, la pop, moi, c'est le top, quoi. J'adore Radiohead, Blur, Oasis, tous ces groupes anglais qui, j'ai l'impression, ont tout inventé. Les Beatles, bien sûr. C'est ce qui, voilà, ce qui m'émeut, me fait danser.
Justement, vous avez dit que vous avez découvert toute cette musique avec votre petit poste de radio que vous cachiez à l'internat enfant. Vous avez eu envie ou vous avez peut-être fait de la musique, un instrument, du chant, quelque chose ?
Non, mais alors pas du tout. Mais de la même manière que j'adore lire et j'ai aucune envie d'écrire, enfin, c'est pas tout
pour
à fait vrai, mais
la vie
pour
longue.
L'instant, que j'adore choisir des films et les proposer, mais je n'ai pas envie de prendre une caméra. Non, j'aime bien. Je trouve qu'il y a des gens qui sont extrêmement...
Vous appréciez le travail
voilà,
des autres.
Voilà, il y a des gens extrêmement doués. Et moi, c'est faire passer leur passion, quoi. Enfin, leur passion, leur émotion à eux, ce que j'ai envie de faire, quoi.
D'accord, d'accord. Donc, vous écoutez beaucoup de musique.
Beaucoup. Enfin, quand on a une fille de 6 ans, il y a des périodes un peu compliquées, mais...
Oui, alors c'est Disney que vous écoutez en ce moment.
Oh, pas trop, quand même, pas trop. Mais c'est vrai que l'autre jour, on s'est fait un petit... Je lui ai fait écouter du Eminem à un moment et elle a remis la Reine des Neiges dans toutes les langues. Les enfants sont cruels, parfois.
Donc... Nous sommes dans le Nord avec Marc, qui a une trentaine d'années, qui travaille à la banque, qui, on pourrait le dire, a une vie déjà toute tracée dans la banque.
Complètement.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ?
Je pense qu'il y a un moment, c'est la question de se dire, eh voilà, est-ce que je vais faire de ma passion, de ce que j'aime, mon métier, ou est-ce que je vais rester comme ça ? Et puis c'est aussi, je me projette en me disant, mais à 50 ans, je ne veux plus être dans la banque, c'est évident. J'ai rencontré des gens chouettes, j'ai appris plein de choses, mais je vais me dessécher sur pied et je ne veux pas être... Je voyais les commerciaux bancaires... par groupe de 5-6 le midi, aller au restaurant, et j'étais là-dessus, un peu bedonnant. Et c'était une image, mais qui était totalement mortifère pour moi. Et donc, je choisis de reprendre un peu les études, alors prendre voilà, certification de directeur de MJC, un DESS de développement culturel. Puis je pense aussi qu'il y a un événement psychanalytique, hein, il ne l'est pas pour le coup, mais qui est la mort de mon père.
Et qui correspond à cette période.
Qui correspond à cette période-là. Et parents agriculteurs, leur fils bosse au Crédit Agricole, c'est une réussite totale et c'est extrêmement rassurant. Mon père décède et j'ai plus ce poids à lui faire envie, lui faire plaisir. Je peux vivre ma vie, peut-être. Et je pense qu'il y a de ça aussi, de dire, bon, maintenant je vis pour moi et advienne que pourra. Quoi.
Donc, la culture.
Ouais, la culture, mais alors là... Ouais, c'est un truc qui me... C'est pas que ça me fascine, c'est ce qui me fait vivre.
Qui vous fait vibrer.
Qui me fait vibrer, puis ça part dans tous les sens. Moi, c'est vraiment... j'aime énormément voir de la danse, mais je vous disais lire, écouter de la musique, aller au cinéma.
Les expos.
Les expos, pas plus que ça, c'est un peu, mais j'aime bien quand ça bouge un peu quand même.
D'accord.
Après, voilà, je découvre la région vu que je...
Mais alors, mais justement, j'aimerais savoir, vous êtes dans le Nord, vous faites donc ces deux années, entre guillemets, sabbatiques, où vous perfectionnez dans le métier que vous avez envie d'exercer plus tard. Ces deux années d'études se font dans le Nord ?
Absolument pas. Non, la première année se fait à Nantes. Oui. J'adore cette région. Et puis la deuxième se fait, enfin le DESS se fait à Lyon, à l'ARSEC,
un DESS complètement l'opposé.
Voilà, de développement culturel. Et dans ce cadre-là, je vais faire un stage, je vais rencontrer des gens et je vais mettre le pied dans mon prochain boulot, quoi. Et voilà, ce qui explique que je vais m'établir sur Lyon.
D'accord. Donc la deuxième année terminée, vous trouvez un travail à Lyon.
Oui.
Quel est ce travail ?
Moitié dans un cinéma en tant qu'animateur et moitié dans une coordination de cinéma. Et là, je vais apprendre sur le terrain le métier, en fait. Et je vais travailler quelques années avec une directrice dont le départ en retraite est prévu. Et donc, je vais lui succéder. En fait, on va faire un filage très long.
C'est prévu dès le départ que vous êtes là pour lui succéder ?
C'est pas dit comme ça, mais
ça se décide comme ça.
Décide comme ça.
Et alors là, comment ça se passe? On doit connaître les réalisateurs, on doit connaître les thématiques. Qu'est-ce qu'il faut pour faire le métier que vous faites aujourd'hui? Là, vous êtes à Toulouse, directeur de l'ABC. Qu'est-ce qu'il faut? Je parle en plus des études.
Ouais, bien sûr. Bon, moi, les études, c'est pas ça qui a conditionné. C'est une petite entreprise, hein, qui parfois connaît la crise d'ailleurs, mais c'est une petite entreprise. Donc c'est à la fois avoir des bases de management, parce qu'on a souvent une équipe, hein, de 7-8 qui demande une passion, une envie, de l'enthousiasme. Ben, en l'occurrence le cinéma. Et donc c'est ici à Toulouse, à l'ABC, je suis programmateur. Ça veut dire sentir à peu près les films, la ligne éditoriale du cinéma, choisir, négocier, beaucoup de travail de négociation avec les distributeurs. Et puis, je pense aussi, moi, fondamentalement, dans tous ces métiers, aimer les spectateurs, aimer les gens, pour se dire, tiens, quel est le meilleur moyen de leur faire découvrir ce film, en l'occurrence, et de rendre un lieu à peu près convivial et sympathique. Je crois que c'est un peu un triptyque entre une équipe, des responsabilités vis-à-vis d'une entreprise. On n'est pas là pour perdre de l'argent, hein. Il y a des gens à payer tous les mois, etc. Et puis des spectateurs qu'il faut satisfaire, quoi. Mais avec le cinéma au milieu.
Comment ça se passe? Expliquez-moi, Marc, comment vous choisissez les films? Je suppose que vous avez les distributeurs qui rentrent en contact avec vous en vous disant il y a tel film qui va sortir bientôt, etc. etc. J'imagine qu'en plus, il y en a énormément.
À peu près une bonne douzaine par semaine de films.
Bonne douzaine. Comment vous faites votre choix? Comment ça se passe aussi? Je vais vous laisser répondre, mais j'ai une question, on amène une autre. Excusez-moi. Vous faites votre choix de film. Le film est prévu sur tant de semaines ou c'est suivant le nombre d'entrées que vous le laissez?
Alors, il y a plein de questions là-dedans. Déjà, à Toulouse, il y a deux cinémas art et essai importants de centre-ville qui sont l'American Cosmo avec Utopia Centre-ville et l'ABC. Donc il y a systématiquement un partage, c'est-à-dire c'est soit eux qui ont le film, soit nous. On ne l'a jamais en même temps. Donc ça, c'est une première chose.
Ce qui est logique, ça permet d'avoir un plus grand choix pour les télévisions.
Il y a une diversité plus sympathique. Ouais. Ce qui veut dire que si un film est vraiment qui nous plaît à tous deux, ben, c'est un peu la négo avec le distributeur pour avoir le film. Avec les distributeurs qui font souvent des partages, c'est un coup l'un, un coup l'autre, en gros, pour schématiser. Comment on choisit les films? C'est souvent les voyants, déjà, dire est-ce qu'on les aime ou pas, et est-ce qu'on pense que les spectateurs peuvent être sensibles à ces films. Il y a aussi des auteurs maison. Je sais qu'à l'ABC, par exemple, Woody Allen, pour ne pas le citer, est un auteur maison. On a, je pense, passé tous les Woody Allen, un peu de la même manière que Xavier Dolan. Et là, il n'y a pas trop à se poser de questions. Il y a un Dolan qui sort, on le prend. Qu'il soit bon ou mauvais, on prend Dolan, les gens ont le droit de le voir, ont
donc
envie de le voir.
Donc ça, c'est convenu avec l'American Cosmo, c'est comme ça.
On le sait, voilà.
On le sait comme sait, eux chacun, ont certainement voilà. Leur propre...
Exactement, c'est du non-dit, mais qui est su.
Donc, c'est Jérémy, je crois, que je connais. Donc, vous travaillez en étroite collaboration avec lui, j'imagine, et vous vous appelez dès que vous voyez un film en disant « je le prends,
Non. On travaille en concurrence très respectueuse.
Voilà,
je pense qu'on s'apprécie. Mais on est concurrents, hein, très bien clairement. Sûr. Non, c'est si on voit tous les deux un film qu'on apprécie tous les deux, on appelle le distributeur en essayant de le convaincre de nous filer à nous le film et pas à l'autre.
D'accord.
Donc non, on s'appelle pas entre soi parce que là, c'est chacun pour soi quand même. Donc il y a ça. Et j'ai perdu un petit peu le fil.
C'était combien de temps? Est-ce que c'est suivant le nombre de spectateurs?
On a deux approches différentes sur Toulouse. Il y a une gazette qui est celle de l'American Cosmo. C'est une programmation sur 4 semaines, donc tout est extrêmement calé. À l'ABC, c'est une programmation à la semaine, ce qui nous permet de moduler dans les deux sens, c'est-à-dire un film qui ne fait absolument pas d'entrée, où il n'y a pas d'envie du public, qui se rétale. On va l'arrêter tout doucement. En général, je fais jamais moins de 3 semaines parce qu'il me semble que c'est pour que les gens aient un peu le temps de le voir quand même. Mais après, on le sait très vite. Un film qui ne fait pas envie, il ne fait pas envie. Hein.
Alors, je prends un exemple. Ouais. J'ai l'occasion de venir chez vous de temps en temps. Et une fois, j'ai vu, il y a plusieurs semaines, l'affiche d'un film qui allait être bientôt diffusé. Et je me suis dit, j'ai envie de voir ce film, je viendrai le voir. Et puis, parce que j'y ai pu repenser, parce que j'ai fait d'autres choses, je ne suis pas venue. Et je suis venue cette semaine chez vous. Et alors, j'ai été extrêmement surprise de voir qu'il était toujours à l'affiche. C'est Croman. Et donc celui-ci, vous l'avez laissé vraiment très longtemps.
Oui, mais c'est un cas particulier. Cro-Magnon, c'est du jeune public qui convient aux adultes totalement, on est d'accord. Hein. La production jeune public de très grande qualité quand même, hein, Cro-Magnon, c'est ceux qui ont fait Wallace et Gromit, etc., Hank Park, et pas si nombreuse que ça. C'est-à-dire que là, en gros, en jeune public, il y avait essentiellement Cro-Magnon, Marie et la fleur de sorcière, cinéma d'animation japonais, et puis un ou deux autres. Mais donc, on les garde plus longtemps que des films. Je pensais à... Par exemple, je pensais que vous alliez me dire, il y en a un qui est disparu, L'apparition de Gianoli, qu'on a gardé un petit peu quand même. Mais chaque semaine, c'est si on veut rentrer des films, il faut en sortir. Et ça, c'est incontournable, quoi. Et par exemple, cette semaine, il y a Ciné Latino, un festival qui va prendre,
qui prend
beaucoup de place. Oui. Plus, on va rentrer, je sais pas, le Abdelatif Kechiche qui fait 3 heures, Mektoub My Love. Et à un moment, si on veut rentrer des films, faut en sortir, quoi. Et donc, c'est parfois avec beaucoup de regrets, mais
oui, parce que je suppose que des gens vous les réclament alors qu'ils viennent d'être sortis.
Bien
sûr. Parce qu'une semaine, il faut pouvoir venir. Sur une semaine, c'est extrêmement
court. Ah oui,
court,
non, mais je vous dis, c'est au bas mot 3 semaines, quasiment.
D'accord.
Systématiquement, par respect, ouais.
Combien vous avez de fiches en même temps à Toulouse ?
De fiches, de films ?
De films, pardon, en même temps.
Oh, on en a 7-8.
Ah oui, quand même.
Ouais, ouais, ouais. Mais avec certains, voilà, qu'on on va laisser 2-3 séances dans la semaine, histoire que les deux retardataires puissent le voir, quoi.
Vous savez, j'imagine qu'avec l'expérience, quand vous voyez un film qui vous plaît, que vous prenez, vous savez à l'avance le succès qu'il va avoir ou vous avez souvent des surprises ?
Ah, on a des surprises, on a très clairement... Il y a des films où on sent... Moi, je me souviens avoir vu 120 battements à Cannes, qui a été l'American Cosmo. Quand on est ému soi-même, emporté et tout, on se dit que je pense être voilà, un spectateur assez... commun dans le bon sens du terme, je sais pas si un bon sens, mais où je sens quand même voilà le, si ça peut plaire ou pas, on sentait le succès que le film allait remporter parce que le thème est vraiment intéressant, il nous emportait, donc voilà. Et puis il y en a quelques-uns on se trompe hein, totalement, ou alors il y a des films qui nous parlent personnellement, je sais plus c'était je sais plus comment il s'appelait, style Mimosa, l'Atlas, etc. C'était un peu une quête existentielle. Et sans doute que c'est un film qui avait dû me toucher profondément. Je croyais qu'il avait vraiment marché. Il n'a rien fait du tout parce que voilà, ce qui me parlait à moi ne me parlait pas aux autres. Donc, ce n'est pas toujours universel quand même.
Oui. Je vous propose, Marc, une deuxième pause musicale. Et alors, votre choix s'est porté sur une chanson de Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. On écoute.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Waouh.
Alors, Anne Sylvestre, oui, mais surtout cette chanson, « Les gens qui doutent », qui me parle, mais comme ce n'est pas permis, je trouve, en ce moment, avec toute cette politique, qui a toujours été d'ailleurs, mais je suis toujours effaré, stupéfait, surpris, un tout petit peu admiratif et vraiment beaucoup de peur devant les gens qui ne doutent pas, quoi. Les gens qui sont persuadés d'avoir raison, ça m'effraie à un point incroyable.
Mais c'est certainement ceux qui doutent le plus.
Ah, ça, je suis pas sûr. Alors là,
j'espère
pas sûr.
Pour eux. Sinon, c'est catastrophique.
Ah, je pense que c'est catastrophique dans beaucoup de cas. Je pense qu'il suffit d'avoir quelques noms en tête d'hommes politiques actuels qui sévissent en
oui,
France.
Oui, mais non, mais ça,
je suis
c'est
pas
à part.
Sûr. Je suis pas sûr qu'ils doutent beaucoup. Et c'est effrayant,
là, c'est
quoi.
C'est ça qui est terrible.
Et c'est effrayant. Et là, la chanson d'Anne Sylvestre, c'est un peu un hymne aux gens qui doutent, aux ratés de la vie, à tous. Et voilà, c'est cassé du cœur, mais je trouve que c'est très, très beau.
À quel moment vous arrivez à Toulouse ? Donc vous êtes arrivé à Toulouse après Lyon ?
Oui.
Directement, il n'y a pas eu d'autres villes
entre
temps.
Non, en fait, il y a eu une.
Parce qu'on fait le Tour de France avec vous depuis une demi-heure.
Oui, c'est
hein.
Ça, on est toujours en descendant. Hein.
Oui, je vois.
Donc Perpignan, la prochaine étape, je ne sais pas. non, mais en l'occurrence, la directrice du cinéma de l'ABC, Buny Gallorini, elle est partie en retraite. Il y a une diffusion de poste dans le film français. J'ai postulé, j'étais reçu comme plein d'autres candidats.
Vous avez postulé, est-ce que vous connaissiez Toulouse ?
J'étais venu une fois comme ça. J'ai des amis moi, qui bossent à France 3, je les salue. Donc voilà, j'étais venu, on avait fait une visite guidée de la ville, etc.
Oui, donc vous aviez été séduit pour avoir envie de postuler quand même.
Une réputation en plus, Toulouse.
C'était en quelle année ça ?
Ah, c'était il y a 2 ans.
Ah, il y a 2 ans ?
Oui.
D'accord. Vous étiez déjà marié parce qu'on a passé cette
étape
et vous
aviez
déjà votre petite princesse.
Voilà, exactement. Non, donc voilà. Et j'ai été pris à ce poste. Puis c'est un poste assez passionnant, cinéma RSC de centre-ville avec une grosse réputation, donc des enjeux.
Il est là depuis quand ce
50
cinéma
ans.
Oui, parce qu'il fait tellement partie du paysage.
Voilà, on a fêté les 50 ans il y a 2 ans à peu près, justement, au mm-hmm. moment où j'arrivais un peu avant. Donc voilà, quoi, ce qui fait que je suis arrivé avec la famille à Toulouse et puis j'ai pris ce poste, quoi, avec bonheur.
Avec bonheur, oui. Ouais. Là, il n'y a pas photo. C'est, combien vous êtes à l'ABC ?
On est 7.
Ah oui, quand même.
Quand même, c'est le cinéma, c'est 7 jours sur 7, oui. De 8h du matin à 23h30. Il faut du monde, quoi. Donc, ouais.
Le marque directeur de l'ABC, c'est pas trop administratif pour quelqu'un comme vous qui êtes, je vais pas dire un rêveur parce que vous avez vraiment les pieds sur terre également, mais on l'a vu, vous aimez quand même voyager dans votre tête, vous aimez tout ce qui est livre, cinéma. C'est pas trop d'administratif justement d'être aujourd'hui directeur ?
Ça fait partie du job, donc je sais pas. Oui, c'est sans doute trop, bien sûr. Puis on aimerait, comme tous les gens qui bossent, de toute façon, il y a toujours ce syndrome du nez dans le guidon où on est à fond sur le quotidien, sur les 2 heures qui suivent. On n'arrive pas à faire de prospective à plus long terme. Donc sans doute, oui, sans doute. Après, voilà, faut le prendre. Ce boulot, il est comme ça, quoi. Et on sait aussi que de toute façon, on est sur du travail à flux tendu, donc on est toujours un peu à fond. Mais voilà, je m'excuse, mais de la même manière dont mon père était agriculteur, et c'est toujours un peu ces images, mais où dans le temps les agriculteurs s'arrêtaient pour discuter une demi-heure entre eux, et aujourd'hui ils sont tous dans leur tracteur avec une cabine climatisée, ils ne se parlent plus. Donc c'est malheureusement aussi un des maux, carrément, de notre société, contre lequel il faut lutter. Mais l'administratif,
Oui, ça fait partie du job, comme vous
disiez. Ça fait partie du job.
Oui. Est-ce que Vous l'avez dit, il y a deux gros cinémas à Toulouse d'art et d'essai, qui ont la réputation pour le Toulousain de dire c'est du cinéma un peu intellectuel, il y a toujours chiant, intellectuel. Je vous assure que c'est complètement l'inverse pour aller autant chez vous que chez Jérémy. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire justement à ces gens qui pensent ça?
J'ai envie de dire qu'il faut pas raisonner, enfin, mon sens, faut pas raisonner du tout comme ça. Je pense qu'il faut être curieux et il faut être ouvert d'esprit, c'est-à-dire se laisser absorber totalement par un film, par une œuvre. C'est l'exemple typique, c'est je vais de temps à autre présenter des films à des enfants. Au tout début, ou même des collégiens, etc., c'est pour peu qu'on rentre dans la salle et qu'on dise, tiens, le film dont je vais vous parler, qui est un film de Patrick, moi, cette fois, c'est un film en noir et blanc. Et là, on a tout de suite dit, ou alors pareil, c'est un film en anglais. Alors là, on a des murmures, des soupirs dans la salle. Et puis, à la fin du film, on va rediscuter avec ses enfants et limite, ils se souviennent même plus que c'était du noir et blanc. Ils y ont vu de la couleur. Mmh. Parce qu'ils se sont laissés emporter par un imaginaire.
C'est juste ce que vous dites.
Et voilà, je pense, c'est vraiment, si vous avez envie de manger toute votre vie la même nourriture conditionnée et voilà, on parlait tout à l'heure de Disney, bon, qui font des trucs très bien aussi, mais en gros, d'être bien formaté par la société telle qu'elle le souhaite, continuer à aller manger des pop-corns.
Mais alors justement, est-ce que Marc, de temps en temps, va manger des pop-corns?
Alors très rarement, très très rarement. Moi, l'image que j'aime beaucoup, c'est celle du vin avec les films. C'est-à-dire aucun mépris pour les films, quels qu'ils soient. Un petit rosé en été bien frais, c'est super bon. Et lors d'un bon repas, un grand cru classé.
J'adore l'image.
C'est très très bon aussi.
Ça a le mérite d'être très clair, on voit bien.
et il ne faut pas comparer l'un et l'autre, c'est deux choses différentes. Et moi, voir un gros film blockbuster avec des effets spéciaux, je suis très heureux de le voir.
Vous avez été voir Star Wars ?
Grand écran, non, je ne suis pas allé, j'ai un peu décroché. Moi, j'ai vu les premiers que j'avais beaucoup aimés, enfin, les préquels, machin, les trucs. Depuis, j'avoue que je n'ai pas... Mais je mange un peu du cinéma à l'ABC, il y a toujours ce syndrome des cordonniers. Et de fait, quand je rentre, j'ai envie d'autres loisirs aussi. On parlait de marche tout à l'heure, hors micro, de randonnée. Mais j'ai plutôt envie d'aller randonner un peu, de voir des amis.
Oui, alors ça, on va y venir. Mais je voudrais quand même vous demander aussi. Donc, on a vu pour les autres multiplex, Gaumont et UGC et autres. Mais est-ce qu'il vous arrive d'aller au cinéma à l'American Cosmo parce que un film que vous aviez peut-être envie de voir et que vous n'avez pas chez vous?
Alors, je suis déjà allé à l'American Cosmo. Je vous disais, je les aime beaucoup. Je les trouve très, très sympathiques. Après, on voit beaucoup de films lors des festivals.
Oui.
Alors, là, il y a Cannes qui se rapproche. Oui. On va manger des films et des films.
Oui.
Oui, j'y vais, bien sûr. 15 jours, ouais, c'est un passage incontournable. D'accord. Parce qu'à la fois, on voit beaucoup de films et on voit tous les gens de la profession. Quoi.
D'accord.
À Hoche, il y a un très joli festival qui existe et organisé par Ciné 32. Et puis, bien souvent, les distributeurs nous envoient les films pour qu'on les visionne, avant de les choisir et d'avoir envie de les prendre. Donc, je vois beaucoup de films en amont. Du coup, ça limite relativement... limite, là où je vais voir des films, c'est pour le jeune public. C'était un conte peut en cacher un autre. Je crois que je suis allé voir avec ma fille à l'American Cosmo, qui est très chouette d'ailleurs. C'est ceux qui avaient fait le Gros Ruffalo. Mais oui, non, je vais à l'American Cosmo. Je trouve que le Gaumont travaille très très bien.
Moi, je voulais vous poser une question sur un film qui m'a un peu marqué chez vous. Je voulais savoir si c'est un film qui a été beaucoup vu et apprécié. C'est La Douleur. Comment il a marché ce film?
Alors il a très très beau succès, même je pense qu'il a dépassé les espérances du distributeur, qui était à la fois surpris, parce que c'est un film assez curieux. Bon, déjà, hormis les gens qui savent que La Douleur est un bouquin de Duras qui est adapté, bon, je pense que c'est une grosse partie quand même des gens qui l'ont vu, mais quand même c'est pas forcément un titre hyper funky, hyper sexy. Aller voir La Douleur, faut un peu s'y cogner.
Et puis surtout le film que j'ai vraiment aimé, mais bon, effectivement.
Et il y a là aussi, mais un peu tout à l'heure, c'est de dire, faut laisser de côté les a priori, parce que certes il aborde des choses pas simples, Et en même temps, il est fait d'une manière relativement abordable. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et on peut se laisser prendre par ce film d'une manière assez simple, qui est extrêmement bien fait, Finkiel fait un gros travail. Mélanie Thierry, l'actrice, est remarquable. Donc non, c'était plutôt très bien vu. Après, toujours méfiance avec les films. Ne lisez pas trop les critiques avant. Allez voir d'abord les films la tête. Parce que pour peu que l'on ait dit que c'était le plus grand film de tous les temps, vous allez forcément être déçus. Allez voir les films en gardant à côté comme ça.
Oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Je voulais savoir si un film qui a du succès chez Marc, est-ce qu'il aura du succès partout ? Alors, j'ai mal posé ma question. Est-ce que vous êtes le reflet des autres salles ? Est-ce que Toulouse est le reflet pour un film de ce qui va être dans le reste de la France ? Alors, s'il a du succès chez vous, il aura du succès partout ou ce n'est pas forcément le cas ?
Il y a deux choses. Déjà,
pourquoi je vous pose cette question ? Parce que Toulouse est connue pour être un public de connaisseurs tous les domaines. Tous les domaines, par exemple. Un chanteur d'opéra, il a toujours très peur de passer à la halle au grain parce qu'à Toulouse, on est réputé pour être connaisseurs et que ce soit en musique ou que ce soit en cinéma. D'où ma question, qui n'est pas forcément bien tournée, mais voilà.
Oui, alors je pense que c'est difficile de comparer une salle à une autre, mais effectivement, j'étais surpris en arrivant à Toulouse, des spectateurs très cinéphiles, et je me souviens, ça va me revenir. En gros, il y avait deux films à l'affiche, il y avait Médecin de campagne de Thomas Lilti, et puis il y avait un film japonais, asiatique, qui était très beau, très comme ça, atmosphérique, plein de couleurs. Et le nom m'échappe. Et je me souviens que ce film avait été plébiscité par les spectateurs. Donc c'est effectivement quand même, en tout cas en ce qui concerne l'ABC, public exigeant et de qualité, quoi.
Et
qui a pas peur de l'exigence et c'est drôlement agréable, quoi. Donc certes, ça a aussi des faut assurer, mais c'est très agréable. Et après, sur savoir aussi si le film marche à Toulouse, est-ce qu'il marche partout. Là, il y a récemment un petit film hongrois, La Juste Route, qu'on a passé. Deux juifs, juste après la guerre, reviennent dans un village en Hongrie et toute une agitation qui naît, les juifs reviennent. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est un film qu'on a gardé, je crois, 5 ou 6 semaines. On était quasiment la dernière salle de France à l'avoir. Et là, heureusement, le travail d'exploitant arrive un peu. C'est-à-dire, je pense qu'on a réussi, parce qu'on aimait beaucoup ce film, à créer un mini bouche à oreille et à faire ce que les gens viennent le voir et le recommandent à leurs amis, etc. Donc c'est aussi le boulot parfois de l'exploitant, si on apprécie vraiment un film, comment le mettre en avant pour le faire apprécier quoi, et partager.
Comment vous travaillez un film, il va sortir, le distributeur vous le montre combien de temps avant sa sortie ? Par exemple, une expo de tableaux chez un galériste, ça peut se prévoir 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance. J'imagine que c'est très différent sur la sortie d'un film. Vous pouvez prévoir vos plannings combien de temps à l'avance ?
Alors là aussi, on en revient. Par exemple, le Woody Allen qui sort, limite on le voit pas, on peut le poser et puis on sait que c'est du Woody Allen. Il y a typiquement les films de Cannes. Il y en a certains qu'on va programmer quasiment sans les avoir vus avant. Parce qu'ils sortent dans la foulée. Et les voir avant Cannes, ce n'est pas toujours si simple. Et puis, il y a ceux qui vont être datés en octobre. Donc, ça dépend. Il y en a qu'on peut voir aller au plus tard 1 mois avant. Et puis, d'autres qu'on peut voir 2-3 mois avant.
Oui, donc il faut savoir s'organiser. Parce que vous pouvez travailler sur du plus long terme comme sur de l'urgence.
Totalement.
En fait.
Après, c'est aussi des réalisateurs qui ont un parcours, qui ont une histoire. C'est aussi une relation de confiance avec un distributeur, hein, quand ils sont, vous les connaissez, qui veut dire quand même, va voir ce film, tu peux y aller de confiance.
Alors, ça, j'aimerais qu'on en parle, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas cette histoire. L'ABC s'appelle l'ABC parce qu'il y a 3 salles, la salle A, la salle B et la salle C, tout simplement. Mais pourquoi les cinémas ont tous des noms courts ? Est-ce que vous le savez ? J'imagine que oui.
Alors, Je recommence sans bafouiller cette fois. J'en sais rien, vous allez me l'apprendre. Après l'ABC, c'était aussi bien souvent. Je viens d'un cinéma qui s'appelait Les Alizés. Et c'était l'idéal, c'était pour, dans les journaux, être en début de programme. Donc, on mettait... Voilà, ABC, on avait tout de suite le programme des films avant tous les autres cinémas. Là où j'étais, qui était la banlieue de Lyon, après ils ont fait Lyon intramuros et la banlieue plus tard, comme ça, on était relégués à l'arrière. Non, l'ABC, j'aurais tendance à dire par rapport peut-être aux enseignes, qui devaient pas être trop grandes et lumineuses et coûter des sous.
Enfin, c'est exactement tendance, ouais. Ça, voilà, parce que ça coûtait cher et qu'il fallait les faire lumineuses, donc on mettait le moins de lettres possible, ouais, absolument. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé du cinéma et avec grand bonheur. J'aimerais qu'on revienne à vous, Marc, et j'aimerais que vous me disiez, maintenant que vous êtes à Toulouse depuis très très peu d'années, mais enfin quand même deux ou trois ans, c'est ça ?
Un an et demi, deux ans.
Vous aimez ?
Oui, alors c'est très curieux. Hein. J'aime beaucoup, mais mon métier phagocyte beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'y passe quand même un certain temps, et qu'il me réjouit. J'y trouve beaucoup, beaucoup de bonheur, et que dès lors, il déborde sur tout le reste. Et j'ai l'impression de, quand je me promène, quand je vais à droite ou à gauche, de toute façon, d'être rempli de cette joie-là. Et je ne vais pas dire que je n'ai pas une grosse exigence, mais je suis plutôt bien dans mes baskets. Et dès lors, je n'ai pas une exigence. Je trouve que c'est un peu loin.
Un homme heureux est heureux partout.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. J'ai rencontré des gens très sympas.
Parce que la mentalité à Toulouse est quand même, par rapport au Nord, c'est ces deux mentalités qui sont très différentes.
Oui, mais il y a un côté bar et bistrot qui peut se rejoindre.
Ouais.
Que moi, j'aime bien, j'avoue.
Alors, je fais remarquer à nos auditeurs qu'on a parlé du vin, on a parlé des bars. Ah ouais. C'est bien, Marc, on apprend à vous connaître.
Ah non, mais moi, la bière est une passion chez moi. J'adore la bière. Donc, il y a ce côté-là. Après, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment... J'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus 50 000 vrais Toulousains. Enfin,
oui.
Il y a beaucoup de gens des départements limitrophes. Et il y a tous ces gens aussi qui bossent... Moi, j'ai la chance, bon, ça nous coûte un bras, mais de vivre dans le coin du Busca.
Ah oui, vous êtes dans le triangle d'or.
C'est merveilleux. C'est, là, pour le coup, notre jardin, c'est le jardin des plantes. C'est quand même pas mal. On n'a pas l'entretien à faire.
C'est pas dégueu, effectivement.
Et ça veut dire que c'est aussi une population ciblée. Enfin, les parents, il y en a un qui bosse chez Airbus, l'autre qui bosse à l'INSEE.
Oui, bien sûr.
Donc, ils sont très sympas, mais ils ne sont pas forcément toulousains. Mais du coup, ils viennent un peu de toute la France. Moi, j'aime bien ce brassage, quoi. Non, ce qui est rigolo à Toulouse, c'est ce côté... provincial quand même, quoi, puis un peu...
De gros villages.
Ouais, de gros villages. Réseau, ça réseaute quand même beaucoup, j'ai l'impression. Le fait que le TGV soit pas tout à fait là, c'est un autre rapport à la ville. Et puis par rapport à Lyon, d'où je viens, c'est assez curieux. Enfin, le truc à Lyon, c'était quelle est la différence entre Paris et Lyon. Bah, c'est qu'à Paris, on parle jamais de Lyon, quoi.
Mais c'est ça.
Alors qu'à Toulouse, on sent une province un peu décomplexée, quoi.
Oui.
Qui assume, en plus avec le côté rugby, etc. Mais... Donc oui, non, j'aime bien.
Vous aimez dîner où ?
Alors là, moi, je suis...
Vous aimez manger ?
Énormément.
Alors donnez-nous vos bonnes adresses.
Oh là là ! Mais là aussi, j'en reviens là, mais je... Alors, je suis un papa assez gâteau et laxiste.
Oui, je pense qu'on l'a tous compris,
ouais,
ça.
Et du coup, je me fais plein d'autocensure et je refuse que ma fille s'ennuie au restaurant. Donc, pour l'instant, je suis adepte des gros apéros à la maison et de choses comme ça. Donc,
ah, c'est sympa, ça aussi. Hein.
Voilà, je fais pas peu de beaux restos. J'en ai fait quelques-uns et c'était très bien. Mais je ne sais plus, dans le coin de Saint-Michel, on avait mangé un petit restaurant en thaï qui était super. Mais en plus, j'ai oublié les noms. Et tous les midis, j'ai la Fontaine Saint-Bernard qui a l'air d'être, c'est marrant, on dirait une pension de famille où tout le monde se connaît. Il y a très peu de gens avant 50 ans. Mais ça me convient très bien.
Non, mais en plus, l'ABC, là où vous êtes, il y a plein de petits restos sympas tout autour.
Ouais,
Saint-Sernin et tout.
Je pense que franchement, moi, c'est du style un quart d'heure top chrono et j'ai fini de manger quand je travaille. Quoi.
Ah oui ?
J'ai toujours peur de perdre mon... Enfin, je suis boulot, boulot, boulot. Enfin, en général, je suis au boulot à maximum 7 heures le matin. Et à fond, j'essaye de ne pas finir trop tard pour ma fille. Mais du coup, jusque 5h, 5h30, c'est boulot, 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 quoi.
Alors, on n'a pas parlé de la place des voyages dans votre vie.
Ouais, j'en ai fait quelques-uns. J'étais fasciné par l'Amérique du Sud. Donc, j'ai fait un peu Chili, Pérou, Argentine, Bolivie, Cuba. Et voilà, parfois deux, parfois trois, parfois tout seul, sac à dos. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, ouais, ça, pour le coup, ça ouvre, quoi, vraiment. Voilà.
Donc, dès que la petite aura grandi un petit peu, vous repartez ?
Ouais, j'espère bien, ouais, vraiment, ouais, parce que ça me manque. Et puis, je pense que pour elle aussi, là, on est allé, première fois qu'elle prenait l'avion, à Rome.
Ah, c'est sympa. Ça lui a plu ?
Il a plu tout le temps. Ah, il s'appelle tout le temps, quoi. C'était les jours où il a neigé, on a eu 7 heures de retard d'avion, c'était pas le meilleur, mais bon. Mais oui, moi j'ai envie bien sûr de revoyager, je sais pas où, parce qu'il y a tellement de destinations à découvrir. Pour moi, c'est des familles, on parlait littérature, je sais pas, quand on aime les bouquins, les écrivains voyageurs, c'est important. Enfin, Nicolas Bouvier qui disait souvent on croit faire un voyage, alors que c'est le voyage qui vous fait. Et rajouter où vous défait. Parce que oui, c'est ça qui est ça important. Et puis tout à l'heure, on parlait hors micro là aussi de Jacques Brel. C'est la quête, quoi. Donc je pense que tout ça se retrouve. C'est rêver un impossible rêve, quoi. Et il y a toujours ce côté d'aller voir, qui était un gros misogyne quand même, hein, Jacques Brel. Hein, mais ce côté d'aller voir derrière la colline ce qui se passe, quoi. Il avait une vision quand même pas très. À mon sens, pas très chouette des femmes, mais par ailleurs, il était bourré de talent et d'humanité. Mais donc voilà, moi, tout se rejoint, c'est-à-dire le cinéma, c'est l'occasion d'aller voir ailleurs, la littérature, pareil, la musique, n'en parlons pas, et puis même le football et la bière.
Alors, il nous reste que 2-3 petites minutes, et j'aimerais qu'on profite de ce temps restant pour que vous nous parliez de vos projets, Marc, professionnels et personnels.
Alors, professionnel, moi, ça serait justement d'aller un peu hors du guidon et de rendre le lieu ABC encore plus convivial. Donc, l'American Cosmo, bouchez-vous les oreilles deux secondes. C'est vrai que j'aimerais bien faire un truc sur nourriture et cinéma. Je pense qu'il y a un truc à creuser. Il y a des films qui en parlent. Je ne sais pas comment, mais ça me travaille un peu. Ça, j'aimerais bien. Et puis, personnel, mon épouse, malheureusement, travaillait chez Milan, qui a fermé en centre-ville, donc est au chômage. Et j'aimerais bien qu'elle trouve un boulot, parce que c'est aussi une structuration dans la vie d'avoir un boulot. Et donc voilà, ce serait un espoir pour elle, mais ça, j'espère que ça va se réaliser très vite.
Voilà, c'est un appel, et puis on le souhaite pour elle et puis pour vous. Merci pour tout, Marc.
Merci, Irène.
À bientôt.
À bientôt.
Ainsi va la vie, comme va le vent sur les reins des passantes et des passants l'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant. Ainsi va la vie, comme un invité mystère.